Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Qui est Dieu? Quelle est sa nature? Serait-il tout simplement une force, une énergie, une sorte de bonté d'âme englobant tout, même tout l'univers? Serait-il une essence éthérée qui ne posséderait pas de forme ou d'apparence définie? La Bible révèle que Dieu est une famille, composée de deux membres, souhaitant que nous partagions leurs caractéristiques divines et leur création pour toute l'éternité. Actuellement, la famille de Dieu se limite au Père et au Fils. Quant au Saint-Esprit, il est divin, en ce sens qu'il émane de Dieu. Il est la puissance, la pensée, l'esprit, mais il n'est nullement une entité séparée, une troisième personne comme le sont le Père et le Fils. Nulle part il n'est question d'une trinité dans la Bible. La croyance en un seul Dieu est connue sous le nom de monothéisme. Cette croyance est partagée par le christianisme, l'islam et le judaïsme. Dans ces religions, tous affirment croire en un seul Dieu. Le christianisme traditionnel, lui, croit en un seul Dieu, bien que la plupart de ses églises croient que Dieu est une trinité, que le Dieu unique existe d'une certaine manière en trois personnes. L'histoire de la véritable Église de Dieu, celle qui est restée fidèle aux enseignements du Christ et des apôtres, qui observe les commandements, les lois, et qui vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, cette histoire montre qu'au cours des siècles passés, elle n'a cessé de rejeter la doctrine de la Trinité parce qu'elle n'est pas biblique. Au contraire, la doctrine de la Trinité est issue du paganisme. Elle n'est nullement fondée sur les Écritures. La Bible révèle clairement que Dieu n'est pas une Trinité, mais qu'il est une famille composée d'êtres divins, un Père et un Fils. Cependant, cette famille est maintenant ouverte, destinée à recevoir un nombre considérable de fils et de filles qui partageront la nature de Dieu, sa puissance, son caractère, sa gloire et son immortalité. L'apôtre Pierre déclara que le peuple de Dieu, les vrais chrétiens, sont déjà participants de la nature divine. Cela ne signifie pas que les saints qui seront élevés au rang de fils et de filles immortelles de Dieu posséderont le même degré de puissance, d'intelligence, de majesté ou de gloire que Dieu. Nous n'aurons pas dans le royaume de Dieu le même rang, la même fonction ou la même charge que le Père et le Fils. Les fils et les filles immortels de Dieu demeureront les membres cadets de la famille divine. Le Christ n'a-t-il pas affirmé « Le Père est plus grand que moi ». Si le Christ n'est pas aussi grand que le Père, à plus forte raison, les enfants immortels et glorifiés de Dieu ne seront jamais aussi grands que le Père ou son Fils. Le Père aura toujours la prééminence sur tous les êtres dans l'univers entier. Son Fils premier-né, Jésus-Christ, sera toujours le premier et le plus grand de ses enfants. Jésus-Christ fut-il créé, comme certains le prétendent, ou a-t-il toujours existé? Eut-il un commencement ou a-t-il toujours coexisté avec le Père? La vérité biblique est que le Père et le Fils ont toujours existé ensemble, aucun des deux n'a été créé. Par conséquent, le Père ne créa pas Jésus-Christ. La Bible révèle clairement que l'ensemble des personnages divins, le Père et le Fils, ont existé de toute éternité. Ni celui qui devint le Père, ni celui qui devint le Fils ne furent créés, ni ne naquirent de quelconque façon que ce soit. Ils ont existé de tout temps. L'apôtre Jean l'explique clairement. Au commencement était la parole, le Logos, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, Théos. Elle, la parole, le Logos, le Christ, était au commencement avec Dieu, avec le Père. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Depuis toujours, il y a le Très-Haut qui devint le Père et l'Éternel qui devint le Fils. Ils existaient déjà lors de la création de l'univers physique. Ils ont coexisté éternellement. Certains enseignent que le Christ a été créé, qu'il fut la première création de Dieu. Mais la Bible n'enseigne pas cela. Un passage des Écritures dans la version Louis II pourrait faire croire que le Christ aurait été créé par le Père. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Mais lorsqu'il est question du commencement de la création, il est question du grec arché, qui signifie commencement ou origine. Ce mot a également un sens actif comme commenceur, ou plutôt celui qui commence. Il n'a pas son équivalent en français. La Bible en français courant traduit le même passage comme suit. Voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable, celui qui est à l'origine de tout ce qui a été créé. Le Christ est l'auteur, l'initiateur, il est celui qui est à l'origine de la création de Dieu. Il n'est pas le commencement de la création, celle-ci n'a pas débuté par sa création, non, il en a été le promoteur, celui qui en provoqua l'origine. D'autres versions déclarent, Christ est le principe de la création de Dieu, ou encore il est l'auteur de la création de Dieu. C'est ce que nous avons lu dans l'évangile de Jean. Christ est l'auteur de toute la création de Dieu. La Bible révèle que le Père a tout créé par ou en Jésus-Christ qui exécute ses ordres. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Le Christ est aussi l'auteur de notre salut, et ayant atteint la perfection, il devint pour tous les fidèles l'auteur de leur salut éternel lorsqu'il était humain. Les personnages divins connus sous les noms de Père et de Fils ont existé éternellement. Ils ont toujours vécu en parfaite harmonie. Ils sont toujours unis dans leur façon de concevoir toute chose. Rappelez-vous que le Christ a déclaré « Moi et le Père, nous sommes un ». De plus, il souhaite voir cette unicité, cette harmonie s'étendre à ses fidèles. Il a prié son Père en ces termes « Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es un en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Le Père et le Fils sont toujours en parfaite harmonie. Ils décidèrent que celui qui deviendrait le Fils viendrait sur la terre et s'offrirait volontairement comme victime expiatoire pour toute l'humanité. L'apôtre Paul écrit, et je cite la Bible en français courant, « Ayez en vous les sentiments qui viennent de Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire de force l'égal de Dieu. » Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru dans une situation d'homme. Il a accepté de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il est certain que lorsque le Christ naquit dans la chair, il avait une forme humaine, cette forme qui ressemble à celle de Dieu. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. La Bible déclare que le Christ est celui qui est l'auteur de la création et non la toute première créature du Père et qu'il a existé de toute éternité. Cependant, les Écritures déclarent que personne n'a jamais vu Dieu. Pourtant, des milliers de gens ont eu l'occasion de voir le Christ. Par conséquent, lorsque l'apôtre Jean écrit « Personne n'a jamais vu Dieu », il est question du Père. En rassemblant divers versets bibliques, on découvre que Melchisédek, ce mystérieux personnage de l'Ancien Testament, n'est ni un ange ni un humain. Lui non plus n'était pas créé. L'apôtre Paul écrit « En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. » Melchisédek ne pouvait pas être un ange, car ceux-ci ont été créés par Dieu et ont eu un commencement. Tous les humains ont également eu un commencement, par conséquent, Melchisédek, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, ne pouvait pas être un humain non plus. L'apôtre Paul qualifie le Christ en ces termes, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre, selon le rang, la classe, la position de Melchisédek. » Et il ajoute, « Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » Nous avons d'un côté Melchisédek, qui n'est ni humain, ni ange, et qui demeure sacrificateur à perpétuité. De l'autre, nous avons le Christ, qui possède ce même sacerdoce, un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il ne peut y avoir qu'un seul souverain sacrificateur en même temps, et puisque Melchisédek le demeure selon son rang, selon son grade, à perpétuité, et que le Christ, lui, le demeure éternellement selon le même rang que Melchisédek, il ne peut s'agir ici que de la même personne. Melchisédek et le Christ sont un seul et même personnage divin. Pouvons-nous dire que le Père et le Fils sont deux dieux? Non. Le Père et le Fils sont un, pas deux dieux. Dieu est une famille. Une famille est un groupe de personnes apparentées ou unies, vivant généralement ensemble. C'est le cas pour la famille de Dieu qui est composée de deux êtres divins. La famille divine se reproduit. En effet, lors de la résurrection, les enfants engendrés de Dieu deviendront des fils et des filles immortels de Dieu, des membres de cette famille à part entière. Ils seront placés à un rang plus élevé que les anges, au même niveau d'existence que Dieu. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Ils seront alors pour toujours de sa race, comme Paul l'a déclaré aux Athéniens. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. La parole de Dieu enseigne que les humains ne doivent pas adorer les anges. L'apôtre Jean fut réprimandé par un ange pour s'être prosterné devant lui. « Je tombai au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, adore Dieu. » Mais le Christ fait une promesse à ses fidèles concernant ceux qui se disent être des Juifs spirituels, disciples du Christ, mais qui ne le sont pas. « Je les ferai venir se prosterner à tes pieds. » De la même manière que Dieu interdit absolument aux humains d'adorer les anges et les humains, il permettra que ceux qui auront vaincu et qui seront devenus des dieux soient adorés. Ceci ne signifie nullement que ces vainqueurs auront la même suprématie que Dieu, mais plutôt qu'en tant que membres de la famille divine, ils seront dignes d'adoration. Celui qui vaincra ne sera plus un être humain, mais il aura été transformé en un être spirituel, divin. Il sera membre de la famille divine, fils ou fille du Père éternel. La progéniture de toute créature est toujours de la même espèce que ses parents. Au travers du Nouveau Testament, Dieu appelle les fidèles ses enfants ou encore ses fils et ses filles. Dieu ne les appellerait pas ses enfants s'ils n'étaient pas réellement sa véritable progéniture. Les enfants immortels de Dieu seront donc bien de la race de Dieu. La plus vieille famille de l'univers est la famille de Dieu. Dieu, en hébreu Elohim et en grec Théos, est le nom de cette famille. Les fidèles sont les enfants spirituels de Dieu. Le Père et le Fils ne sont pas des êtres créés, ils existent depuis toujours. Christ est devenu un Fils engendré de Dieu, et tous ceux qui se repentent du péché, qui sont baptisés et qui reçoivent le Saint-Esprit, deviennent des fils et des filles engendrés spirituellement de Dieu. Les hommes et les femmes charnels, non convertis, sont des enfants créés de Dieu, mais ne sont pas ses enfants spirituels. Les anges sont des fils créés de Dieu, ils furent créés par ordre divin, mais ils ne sont nulle part dans la Bible désignés comme étant des enfants engendrés de Dieu. Je poursuivrai ce sujet la semaine prochaine.